nous continuons notre entretien avec Benji Around the World, au fil de la vie. Parce que justement, dans cette deuxième partie, nous allons voir que, parfois, la vie ne tient qu'à un fil. Nous avions laissé Benji, vendredi dernier, en train de festoyer avec des amis à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment Benji, qui a eu la vie qu'il a rêvée, une vie de voyage, une vie de rencontre, une vie de passion dont il a rêvé, nous allons voir comment tout cela peut basculer en un instant. Bonne écoute. Là, on est pour situer dans une échelle de temps, on est à quel
En mai 2022.
Ouais. Mai 2022, c'est ça.
Voilà. Ouais.
Donc il y a 9 mois de cela.
Ouais.
D'accord.
Et donc, j'arrive le premier soir à Tbilissi, que je connaissais parce que l'année d'avant j'avais fait un grand voyage dans la chaîne des montagnes de Caucase, mm-hmm. et dans les montagnes de la Géorgie qui ressemblent aux montagnes de l'Azerbaïdjan. Et donc, je suis à Tbilissi. Premier soir, je dors à l'auberge de jeunesse parce que je me dis comme ça, je vais rencontrer du monde. Donc, je rencontre plein de gens, on fait la fête, on boit des verres tous ensemble. Très bonne ambiance. Et le lendemain, je pars pour mon Airbnb, appartement que j'avais loué pour 2 nuits supplémentaires, histoire de retourner un petit peu à Tbilissi, retourner dans quelques endroits dans lesquels
ouais.
j'avais été.
Ouais.
Et un follower d'Instagram me contacte, il me dit « Ah, je vois que tu es influenceur, je vois que tu es à Tbilissi. » Est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre ? Je lui dis, bah écoute, ouais, j'ai acheté un peu de vin, est-ce que tu veux venir boire un verre dans l'appartement ? On pourra discuter. Donc il vient, on boit un verre, et au bout d'un verre, je me lève pour aller aux toilettes, et je m'écroule par terre. Alors là, c'est la partie moins drôle.
Ouais, on va basculer dans une...
c'est la partie Ceausescu.
Voilà, on va partir dans... On a la partie qui était gaie, le voyage,
voilà.
et la
Donc,
deuxième
mon palace,
partie.
Mon palace du peuple était construit,
ouais.
ma vie était rêvée. Je faisais le tour du monde, j'avais de l'argent
sur moi. Tu vivais un rêve, tu avais
Je vivais mon rêve.
Tu vivais ouais. ton rêve.
Le rêve de ma vie, en fait, ouais.
Voilà. Et à partir de là,
je me retrouve par terre. Et là, je me dis...
Sans comprendre, en fait.
Sans comprendre. Bah oui, parce que j'ai toujours été habitué à voyager seul, j'ai jamais eu trop de problèmes. Et là, je me dis, il y a un truc qui va pas. Donc, j'essaie de me relever et je dis à Guga... j'essaie de parler, mais j'ai du mal à parler. Donc, je lui dis, Guga, il comprend pas ce que je lui dis.
Ouais.
Enfin, dans un anglais qui ressemble à rien.
Ouais.
Et je lui dis, en plus, il faut que j'aille faire pipi. Alors là, j'essaie d'aller aux toilettes, impossible d'aller aux toilettes. J'essaie de me redresser, impossible de me redresser. J'ai du mal à parler. Et il me dit, c'est bizarre, tu ressembles à ma grand-mère qui a fait un AVC. Alors, je me dis, j'ai jamais fait d'AVC, ça me parle pas forcément. J'ai pas d'antécédents, j'ai ma maladie de Crohn, mais sinon, à part ça, tout va bien.
Ouais.
Et donc, il appelle les pompiers. Et alors moi, j'avais déjà vécu l'AVC d'une amie. À l'époque, quand je vivais au Canada, j'ai vécu à Montréal pendant 2 ans. Et j'étais...
Alors, situé pour l'auditeur, c'est quoi un AVC concrètement ?
Alors, un AVC, c'est un... Il y a 2 types d'AVC. Il y a l'ischémique et il y a l'hémorragique. Alors, l'ischémique, ouais. c'est un caillot de sang dans un vaisseau sanguin, donc qui bloque. Et l'hémorragique, c'est un vaisseau sanguin qui explose et qui met du sang dans une partie du cerveau. Donc en gros, c'est ce qui m'était arrivé. Quand je me suis relevé pour aller aux toilettes, j'ai probablement accéléré le rythme de mon sang dans mon corps
ouais.
et provoqué une accélération qui a fait péter un vaisseau au niveau de l'hémisphère droit de mon cerveau.
Ouais.
Et donc là, bam, donc, chaque minute, c'est plus d'un million de neurones qui grillent. Et donc là, toute la partie motrice, ma partie gauche, mon corps donc, est à moitié paralysé. Donc d'où l'idée que je peux pas me relever, que je peux pas bouger. Donc on me met sur un brancard, on m'amène à l'hôpital et j'arrive à l'hôpital en Géorgie. Donc j'ai toute ma tête. Ça c'est la partie.
Oui, tu te souviens de tout, t'es conscient.
Ouais, c'est la partie. J'allais dire un peu drôle en fait, c'est que je suis comme si j'étais normal, mais je peux pas bouger quoi.
Tu as mal, t'as de la
non,
douleur.
Non, aucune douleur. Il y a des gens qui relatent par exemple qu'ils ont eu une douleur dans la nuque ou un truc comme ça.
Voilà. Ouais.
Rien du tout.
C'est juste qu'en fait, tu peux pas bouger, t'as une espèce de pression, en fait.
Ouais, c'est ça, mais pas de douleur, rien. Je sens que ma bouche est un peu bizarre, mais à part ça, non, ça va. J'ai pas de, je me sens pas, j'ai envie de vomir ou tu vois. Donc on m'amène en soins intensifs. On me met sous médicaments et sous calmant, et sous, on me fait faire un IRM, on voit donc qu'il y a du sang. Donc il y a le médecin qui me dit, une femme blonde, elle me dit « You have blood in your head, you have blood in your head, it's not good. »
Une hémorragie, quoi.
Ouais. Elle me dit « it's not good, you will be paralyzed. » Et je me dis « oh là là !» Dans ma tête, je me dis « ça, c'est pas bon. »
Non. Ouais.
Alors il me demande qui contacter en premier, donc je commence à donner le numéro de téléphone de mes parents, voilà, et après je donne le numéro de téléphone de Guga, qui m'avait accompagné, qui avait été gentil parce que je le connaissais pas plus que ça en fait, et il m'avait accompagné donc en
à l'hôpital, quoi.
À l'hôpital. Ouais. Et il a fait le relais après avec ma famille. Donc ça, ça a été une partie un peu drôle, mais donc il a fait le relais, il a expliqué un peu les circonstances et tout, et donc après l'hôpital, ils ont commencé à demander à payer assez rapidement. Oui, il faut payer 2000 euros par semaine pour les soins. Et moi, j'avais pas la tête là.
Ah ça, ouais. Mais bien sûr, quand on arrive.
Alors donc j'étais dans mon lit. Allongé, avec la partie du corps, donc partie gauche, immobilisée. J'avais une sonde pour faire pipi, assez douloureux, et j'avais aussi un tube dans la bouche pour me nourrir. Donc je faisais pas le malin, quoi. Mais ça me faisait rire un peu, en fait. Je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Tu te disais, finalement, c'est encore une anecdote de voyage en plus qui va se passer.
Je vais pas dire que j'étais excité, mais il y avait un côté un petit peu...
Encore une nouvelle aventure.
Encore finalement. Une nouvelle aventure, ouais. Ouais.
Sans me douter que, finalement...
Sans me douter que ça allait être... Bon, enfin, je vais t'expliquer un petit peu
oui,
après.
Oui,
mais...
bien sûr.
Mais voilà, donc je vis ça avec, la chance d'être en vie, déjà. Je me dis, bon, je suis pas mort. C'est déjà ça, j'aurais pu y passer, j'imagine. Enfin, il y a... Une personne sur cinq qui survit à un AVC hémorragique. Ouais. Donc il y en a aussi beaucoup qui meurent.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Donc je me dis, bon, ça va, j'ai l'air d'être encore en vie. Puis comme dans tous mes voyages, je sympathise très vite avec tout le monde, le personnel, je les fais rire, on rigole ensemble, ils ne comprennent pas mon anglais, moi je ne comprends pas leur géorgien.
Ouais.
Ils sont tous très gentils, vraiment très, un moment presque doux en fait. Pas un moment horrible, genre, j'ai pas stressé en fait, j'ai jamais vraiment stressé en voyage. Il y a des gens qui s'angoissent, qu'est-ce qui va m'arriver ? Appelez-moi ceci, appelez-moi cela, non. Et puis finalement, mes parents et ma sœur et mon beau-frère, que je remercie beaucoup d'ailleurs par rapport à tout ça, ils ont contacté l'ambassade de France en Géorgie.
Oui, ouais.
Et ils ont envoyé un médecin, c'est son rôle en fait de gérer ce genre de crise sanitaire, donc,
ouais.
Pour aller voir à l'hôpital dans quelles circonstances j'étais et... et m'accompagner en fait pour le rapatriement. Puis il y a eu tout un rapatriement organisé vers la France, vers donc l'hôpital de Saint-Antoine, parce qu'il fallait une unité neurologique, puisque c'était un problème neurologique.
Donc c'est à Paris.
Ouais, alors le rapatriement, très drôle. Je me suis retrouvé coincé dans un avion, donc dans un brancard qui était mis au-dessus des appuis-têtes des passagers, donc j'avais en dessous de moi les gens. Et pendant tout le vol, j'étais en fait à 3 cm de là où les gens allument la lumière et au-dessus de vos têtes, là.
Mais parce qu'en fait, j'ai presque du mal à visualiser, en fait. T'étais au-dessus, en fait, des gens quand ils allumaient la lumière.
Ouais, tu vois. En fait, j'avais le nez sur les deux trucs, là, qui ventilent en haut.
Ah oui.
Ouais. Donc, ils avaient installé le brancard là-dessus.
Et t'as quoi, 5 heures de vol
pour
aller, ouais. Donc t'as fait 5 heures comme ça.
5 heures comme ça, une envie de faire pipi.
Ouais.
Une envie de faire pipi, donc j'ai dû faire pipi dans un pistolet. Ouais. Ce qu'on appelle un pistolet, c'est une espèce de contenant en plastique dans lequel on fait pipi, mais j'étais mal parce que du coup, il y avait des gens un peu autour, quoi. Et donc je fais mes 5 heures, j'arrive à l'hôpital Saint-Antoine en me disant « Enfin, je suis en France, je vais bien être soigné. » Bon. Tu vois, ça, c'est aussi l'idée de...
Ouais, les idées reçues.
Ouais, un peu les idées reçues. Donc, j'arrive à Saint-Antoine, je rencontre le neurologue. Il me dit, bon, bah là, c'est pas génial, votre situation. Vous avez fait un AVC, vous êtes hémiplégique, à moitié paralysé. Les voyages, ça va être compliqué. Donc, je me dis, oh là... Et donc, dans le lit, impossible de bouger, impossible d'aller dans un fauteuil. Et il me dit, il y a de la rééducation possible. Et donc, si vous faites la rééducation, vous pourrez peut-être recommencer à marcher, recommencer à bouger votre bras. Donc, je regarde des vidéos sur Internet un petit peu, des témoignages de gens qui ont eu des AVC, puis je vois qu'il y a de l'espoir quand même.
Ouais.
Notamment quelque chose qu'on appelle la neuroplasticité, si tu veux expliquer ce que c'est, est-ce que tu connais ?
Vas-y, je te laisse.
La neuroplasticité, donc, c'est l'idée qu'une fois que le cerveau, une partie du cerveau a été grillée, il est capable de se réorganiser pour recréer des connexions neuronales et reconnecter en fait avec les muscles qui ont été lésés, donc la partie gauche de mon corps. Donc là, on part de ça. Et donc je me dis, bon, bah, ça va aller, il va falloir attendre un petit peu et puis ça va reprendre son cours, il y a plein de témoignages de gens qui étaient partis de zéro et qui ont perdu la moitié du corps et puis qui ont repris tout. Puis il y a des gens aussi, quand ça touche la partie gauche du cerveau, qui perdent des facultés comme par exemple la parole. Moi, j'ai pas perdu la parole. Enfin, je crois.
Non, bah, ça s'entend très bien. Ouais. Hein.
Donc, qui perdent la parole, qui perdent la vision,
ouais.
Qui perdent la sensibilité, qui ont des douleurs neuropathiques,
ouais.
Ou qui sont sourds d'une oreille. Ou, voilà, il y a vraiment des... tout ce qu'on peut imaginer. Ou alors, ils sont sans filtre.
Aussi une paralysie faciale, dans certains ouais. cas, oui. Ce qui s'appelle aussi le syndrome de Bell, mais c'est différent de l'AVC.
Ah oui.
Ouais. Parce que le syndrome de Bell, c'est une paralysie de la moitié du visage, soit le côté gauche ou le côté droit. C'est pas un AVC, mais ça peut avoir les mêmes conséquences. Et dans certains cas, c'est permanent, et dans certains cas, c'est temporaire.
D'accord.
Mais
moi, je connaissais pas.
Et donc, en gros, alors, quand tu as compris, en fait, vraiment, quand t'es venu à la réalisation de ce que c'était vraiment dans la situation dans laquelle tu te trouvais, on réagit vraiment comment à ce moment-là ?
Alors donc, je suis à Saint-Antoine, on m'explique qu'avec la rééducation, il y a des possibilités. On me dit, par contre, ça va pas être chez nous, ça va être dans un centre de rééducation, un SRR, SSR,
ouais,
SSR.
C'est ça.
Il va falloir que vous en choisissiez un. Donc, on me donne une liste dans la région de Normandie, pas très loin de chez mes parents. Parce que du coup, l'idée, c'est de se rapprocher aussi de mes parents.
Bien sûr. Donc,
de mon cocon.
Voilà, du côté de Vernon.
Du côté de Vernon. Et là, donc, je trouve un centre de rééducation à un cours dans le 95. Tu connais ?
Dans le Val d'Oise. Ouais, de ouais. Nous, ouais.
Dans le Vexin. Dans le domaine du Vexin.
Ouais, c'est
ça.
Ouais, c'est ça.
Et donc, je le choisis parce qu'il y a un jardin japonais que j'ai vécu un an au Japon. Et je me dis, bah, c'est un signe. Allez, hop, on y va. Bon, je vais là-bas, j'arrive là-bas, je rencontre du personnel, des gens, et je rencontre des malades, puisque je suis en unité neurologique.
Bien sûr.
Alors, il y a tout type de malades, en fait, en unité neurologique, mais c'est la partie du voyage qui commence à être moins drôle. Je vois des gens qui sont coincés, par exemple, un monsieur qui était en face de Hervé, il s'appelle,
ouais.
En face de ma chambre, qui, lui, est complètement bloqué. Juste après sa retraite, il s'est retrouvé bloqué dans un AVC qui l'a bloqué dans ce qu'on appelle le locked-in syndrome. Donc, en fait, il a... toute sa tête.
Mais il est enfermé dans son corps.
Ouais, il est enfermé dans son corps.
Ça s'appelle pas le syndrome de Guillain-Barré, aussi, par
non,
hasard.
Non, ça, c'est encore autre chose, Guillain-Barré. Mais
d'accord.
Locked-in syndrome, il y a un film, d'ailleurs, Le scaphandre et le papillon, que j'ai vu il y a pas longtemps,
ouais.
Sur un écrivain qui a... Un homme d'affaires, un directeur d'entreprise, qui a eu cet AVC. Et il s'est retrouvé juste avec un œil, à cligner d'un œil. Il a écrit un livre comme ça. C'est fascinant. Et donc ce monsieur, je le vois tous les jours et je me dis, bon bah, Benjamin, tu vois, il y a pire que toi. Après, je rencontre d'autres personnes qui ont fait des AVC, mais qui souffrent d'aphasie. Donc l'aphasie, c'est ils sont incapables de parler. Et là, je me dis, la communication, c'est essentiel dans la société. J'ai eu la chance de pouvoir continuer à parler. C'est peut-être un signe. Après, il y a des gens qui sont paralysés, des paraplégiques, des tétraplégiques, des gens qui sont dans des situations très compliquées, les myopathes, en fait, vraiment... Je pense que ça a été pour moi un peu difficile parce que je me suis retrouvé avec des symptômes légers par rapport à d'autres.
Ouais.
Dans une unité où c'est très lourd en fait. Et c'est quand même assez perturbant.
Tu sais que j'ai exactement le même vécu.
C'est vrai ?
Mais on n'en a même pas parlé avant, ou je vais te le dire là. Et ça a été une très grande souffrance pour moi pendant 3 ans. J'en ai jamais parlé, en dehors d'ailleurs que dans mon cercle familial. En fait, pour moi, dans mon esprit, donc je suis atteint d'un syndrome de Little, une diplégie spastique, donc c'est aussi de la spasticité, une hémiplégie. Et je me retrouve pendant 3 ans dans ce qu'aujourd'hui on appelle un IME, mais qu'avant on appelait un IEM, un institut d'éducation motrice. Et finalement, moi j'arrive là, j'ai l'âge de 7-8 ans, je marche, je m'exprime, même si je suis isolé socialement, je m'exprime, je mange normalement, et là... Bah, gros choc pour moi émotionnel. Je me retrouve avec des gens qui, comme tu dis, sont parfois aphasiques ou myopathes. Ou...
Ouais, ouais.
En fait, dans une situation, je me dis, mais c'est nettement pire que moi.
Mmh.
Et ça, en fait, je me retrouve basculé dans une autre dimension où je me dis, mais
frustrant.
Si je suis là, c'est frustrant, ça veut dire que je suis très diminué, alors qu'en fait, j'en ai pas l'impression et. J'y suis resté 3 ans et c'était une de mes plus grosses épreuves psychologiques.
Ouais, moi, ça a été psychologiquement très difficile parce que du coup, ça m'a un peu déprimé et je me suis retrouvé face à une réalité que j'avais pas forcément envie d'accepter. J'étais dans le déni, je pense aussi.
Ouais.
C'est-à-dire que je me suis dit non, mais ça va pas, la blague va pas durer longtemps. je vais me remettre sur pied et tout. Donc là, on est en mai, juin, on est en juin 2022.
Ouais.
Donc je me retrouve là-bas, dans ce centre. Je rencontre une kiné super,
ouais,
une espagnole avec qui je m'entends très bien, avec qui je rigole beaucoup. Et
que, comme... tu, qu'on veut, que tu vas toujours.
Ouais, Irénée, si elle m'entend d'ailleurs.
Ok, bah de toute façon.
Elle est repartie en Espagne entre temps. Et donc elle me dit, oui, il faut te motiver, tu vas voir, la rééducation va retrouver des fonctions, tu vas réussir à remarcher et tout. Et puis moi je me dis, j'y crois pas trop, mais j'essaie quand même de m'accrocher à l'idée.
Tout est question de mindset. Hein, ça.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est, si tu penses que tu vas remarcher, tu vas remarcher. Si tu penses que tu vas pas jamais remarcher, tu vas jamais remarcher. Et d'ailleurs, j'ai rencontré dans mon parcours de malade des gens qui abandonnent alors qu'ils ont des capacités, mais qui abandonnent. Parce que c'est, on n'est pas tous égaux face à la motivation.
Non.
Comme tu dis, tout est question de mindset.
Il y a des parcours de vie qui sont, ouais, différents, avec des côtés où tu as des gens qui ne peuvent pas s'inscrire dans un mindset qui leur permet d'avoir un certain...
Donc moi, je suis entre le déni, entre l'envie de m'en sortir, entre le message des médecins qui me disent « Oui, il y a des possibilités. Vous êtes jeune. » On ne m'a jamais dit autant de fois que j'étais jeune, alors que quand même à 45 ans, je me sentais plus trop jeune.
On le redit, tu as 45 ans. Voilà.
Ouais. Et on me le répète, on me dit « Vous êtes jeune, vous allez récupérer. » Et donc, je m'accroche à cette idée-là. Et puis, de fil en aiguille, donc avec Irénée, on travaille. Elle me remet debout. Et puis, elle me refait marcher.
Donc, et là, on est à peu près, donc, par l'échelle de temps. Donc, l'AVC a lieu en mai 2022.
Ouais.
Et là, on est en juin-juillet.
Juin-juillet, oui.
Juin-juillet, et là, t'es debout, en fait.
Ouais, là, je suis debout. J'ai déjà vu mes parents qui sont revenus me voir. Ça m'a fait un bien fou aussi. Ma sœur, son mari, les enfants. Donc, des amis qui sont passés me voir. Et puis là, j'ai recommencé à toucher un petit peu à mon environnement d'ici.
Parce que là, pour recontextualiser, avant ça, tu étais dans une chaise roulante
j'étais dans une
chambre d'hôpital. Ouais. On est d'accord.
Ouais, c'est, là, ça. Avec quelques difficultés pour sortir du lit, pour aller dans la chaise, à demander à des aides de venir m'aider, me toucher le matin.
Bien sûr.
Donc, à moitié paralysé, quoi.
Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on a franchement cette...
Bah, moi qui étais habitué à bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup...
Ouais. De se retrouver dépendant comme ça,
c'est frustrant. Et on apprend aussi à découvrir le personnel soignant. Il y a des gens qui sont super sympas, il y a des gens qui sont beaucoup moins sympas, en fait.
Je pense que c'est comme dans beaucoup de... C'est dans beaucoup de professions. Je pense que dans le personnel soignant... Alors, on va pas faire une description de l'état de l'hôpital public en France.
Non, mais il y a... Ouais. Oui, mais sachant que c'est un hôpital public.
Voilà, sachant qu'il y a deux catégories. Il y a des gens qui ont jeté l'éponge et que donc, qui pensent que ça ne...
Il
n'y a plus rien à faire. Donc, en gros, autant moi, j'essaie de mener ma barque et je suis un peu individualiste et j'ai perdu le fondement de pourquoi je voulais faire.
Et puis, il n'y a pas assez de moyens de toutes les façons. Et puis, ils ressassent sur des problématiques.
Et il y a ceux qui veulent, en fait, donner toujours, en fait, la passion et l'envie. Et d'ailleurs, ces gens-là, on les remercie parce que c'est grâce à eux que le service public tient dans le contexte actuel et il faut le redire.
C'est vrai, c'est vrai, parce que c'est pas des métiers évidents, c'est pas des métiers faciles, et en même temps, il y a des gens qui font un travail exceptionnel, j'en ai rencontré, mais le problème aussi que j'avais, c'est que j'étais un peu sans filtre, j'avais tendance à, quand je voyais des gens arriver dans la chambre...
Mais c'est dû à l'AVC, ça, ou...
Non, j'ai toujours été un peu comme ça en voyage, tu sais, aller vers les gens, un peu au culot, très communicatif, je voyais des gens arriver dans ma chambre, je disais, j'en voyais une, par exemple, elle était de couleur, j'ai dit, vous êtes de quelle origine, j'adore les voyages et tout, tu vois, un peu trop...
Un peu pas politiquement correct.
Non, voilà, c'est ça. Et puis, j'ai appris après que j'avais été un peu trop à poser des questions trop indiscrètes. Mais j'ai toujours bien aimé les gens, donc j'y peux rien, tu vois.
Ça se voit dans la discussion.
Hein. Ouais, tu vois, c'est...
Ça se ressent et j'espère d'ailleurs que l'auditeur le ressentira.
Et donc, ce besoin, quand je suis en voyage, de connecter socialement avec les gens, toujours à l'hôpital, la même ambiance avec les patients... Alors demander qu'est-ce qui t'est arrivé, tu vois. Et donc j'ai créé des liens d'ailleurs avec les gens que j'ai côtoyés à l'hôpital, les patients, certaines personnes du personnel, mais les gens en général, quoi, tu vois. Ça m'a toujours intéressé. Et donc à moitié paralysé, donc on commence la rééducation avec Irénée. Ça se passe plutôt bien. Elle me motive beaucoup. Et puis en quelques mois, je réussis à marcher avec une canne tripode. Mmh. Et donc elle me dit il faut continuer. Après, elle me dit, par contre, elle repart en Espagne. Ouais. Et je change de kiné, je passe avec une nouvelle kiné qui s'appelle Lise, qui était très bien aussi, mais moins que Irénée.
Ouais, qui était plus dans la motivation, le
boost,
mindset.
Et donc, la rééducation continue. Le bras, il se passe pas grand-chose, mais je me dis, à minima, si je peux remarcher, au moins, ce sera déjà ça. Parce que marcher, c'est bouger, c'est changer d'endroit, c'est voyager. Donc, je me dis, bon.
C'est ça.
Bon, le bras, c'est quand même super emmerdant, mais...
Et justement, c'est la question que j'allais te poser. Quel est l'état des forces en présence aujourd'hui ?
Des forces ?
Dans quelle situation tu es au niveau de la rééducation, physiquement, là, actuellement ?
Là, maintenant ?
Ouais.
Donc, je sors du centre au bout de 6 mois.
D'accord.
On est en novembre-décembre.
Ouais.
On me dit maintenant, vous avez atteint le maximum de ce que vous avez comme récupération possible. Donc, le bras paralysé, la marche en boitant.
Ouais.
Mais,
bienvenue au club.
Ouais. Donc, je ressemble un peu à Quasimodo. Là, je boite. J'ai le bras qui ne bouge pas. Et on me dit, vous êtes bon pour rentrer à la maison. Donc là, je dis, non, il faut continuer la rééducation.
Ou un crabe ou un mec bourré. On me l'a fait souvent aussi.
Ouais. Et moi, je dis, non, il faut continuer la rééducation, là. C'est pas fini. On me dit, ça fait 3 mois. Au bout de 3 mois... Au bout de 6 mois, c'est fini. Le médecin textuel me dit ça. Et en fait, il faut savoir que c'est faux.
Bien sûr.
Il faut savoir que la rééducation, elle est possible des années après.
Mais bien évidemment.
Et tout est question de motivation et d'envie.
Tu penses que c'est quoi ? C'est l'aspect cartésien de la médecine qui veut qu'on ne veut pas donner d'espoir ? Parce que j'ai eu exactement la même chose.
En fait, non. Je pense que la médecine, ils ont des protocoles sanitaires à suivre. Et je trouve que c'est pas si mal fait que ça, en fait. Et en même temps, je suis un peu contre le principe, mais c'est que si tu étais dans un pays comme le Canada, moi j'ai eu des amis qui m'ont expliqué comment ça se passe là-bas, au bout de 3 mois, on te met dehors de l'hôpital et tu continues tout en extérieur.
Ouais.
Parce que les médecins aussi partent du principe que la meilleure rééducation, c'est le quotidien.
Moi, le quotidien, la vie.
Mm-hmm. Et je ne suis pas complètement d'accord là-dessus, mais bon. Donc on me passe au bout de 6 mois en hôpital de jour, à 3 séances par semaine,
ouais.
Avec transport payé par la Sécurité sociale. Et donc, je continue ma rééducation, mais sans vraiment progresser beaucoup plus. Et on m'explique qu'il y a des histoires de paliers de progression et qu'à un moment donné, des fois, tu peux stagner sur un palier. Puis ça met quelques mois et puis après, ça revient et puis après, ça repart. Donc, j'en suis à la situation quasiment d'aujourd'hui, c'est-à-dire mon bras gauche ne fonctionne pas et la marche s'améliore. C'est-à-dire que maintenant, donc, je suis passé du fauteuil à la canne simple. Je marche avec une canne, j'arrive à faire quelques magasins, accompagner mon père par exemple dans les magasins, accompagner ma mère aussi à faire des courses. J'ai réussi à aller boire un verre dans un bar, à sortir en boîte une fois.
Ouais, chouette.
C'était pas des plus simples, mais j'ai réussi à le faire. Et là, dernier challenge en date, c'est de reprendre les voyages. Fin mars, du 21 au 31.
Donc, tu l'annonces, tu vas repartir à Lisbonne.
Je repars à Lisbonne, pas c'est pour ça. Faire des vlogs. Mais pour revoyager...
Tu ne vas pas filmer.
J'hésite encore un petit peu. Peut-être que je vais filmer, peut-être pas. Ça va dépendre, en fait. Je me demande, est-ce que je ne vais pas faire des vidéos pour expliquer qu'est-ce que c'est que de voyager quand on est handicapé ?
Ça peut être une pas mauvaise idée.
Ouais, ça peut être un angle d'attaque intéressant sur le voyage et le handicap.
Et là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, surtout d'un point de vue de quelqu'un pour qui... C'est récent, et c'était avant de parler de Lisbonne. En fait, c'est est-ce que ton point de vue sur le handicap a changé par rapport en fait à ce que tu vivais avant, c'est-à-dire
oui.
Quelque chose que tu ne connaissais pas, un monde que tu ne connaissais pas.
Avant, j'avais presque de la
compassion.
De la compassion, non, pas forcément, non. Non, quand je voyais quelqu'un handicapé, je me disais, j'espère que ça m'arrivera jamais.
Ouais.
Et puis finalement, moi, ça m'est arrivé. Et donc maintenant, j'ai un sentiment de sympathie et d'empathie pour les gens qui sont handicapés. Et j'ai aucun problème à aller vers les gens handicapés maintenant et leur dire « Ah, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» et tout ça. Et puis je vois que c'est intéressant parce que justement, ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes. Ce matin, j'étais, par exemple, on avait parti chez Leclerc, et il y avait un monsieur dans un fauteuil électrique. J'ai parlé avec lui pendant une demi-heure et il m'a raconté un petit peu sa pathologie et tout. Et puis ça nous fait du bien de parler en fait.
Ouais.
À moi, mais à lui aussi, je pense.
Je pense que c'est pas donné à tout le monde de croiser dans certaines situations des gens qui ont un tant soit peu de vécu similaire où tu peux te confier. Parce ouais. Que c'est quelque chose que la personne ressent à certains égards. Parce qu'en fait, on est dans une société, j'aime à le dire, en tout cas en France, d'un aspect un peu individualiste où on est forcément à un moment donné... très égocentré, c'est-à-dire replié sur soi. Et donc forcément, les autres personnes qui ne vivent pas quelque chose qui t'est semblable, soit ne vont pas savoir comment réagir, ne vont peut-être pas avoir la bonne réaction, ou plus sans, en tous les cas, je ne sais pas comment l'exprimer, mais qui a une certaine forme de distance.
De rejet, tu crois ?
Non, je dirais pas ça. Je préfère parler... Alors, chez certaines personnes, il peut y avoir que rejet. Bien sûr, tout le monde n'est pas égal, mais plus une certaine forme d'incompréhension, voire parfois peut-être de malaise, par exemple.
Oui, c'est vrai, ouais. Ben, moi, de mon côté, je trouve que les valides sont assez bienveillants, parce que depuis que j'ai eu mon handicap et que j'ai eu des situations, en fait, de difficultés dans des endroits où, justement, on pourrait parler aussi du sujet de... l'accessibilité aux personnes handicapées, parce que ça, c'est un vrai sujet. Et tant qu'on n'est pas dans cette situation-là, on ne s'en rend pas compte.
Et alors, ton vécu par rapport à ça ?
Il y a du très bon, il y a du très mauvais. Il y a du très bon, il y a des... Je vois, par exemple, vers nous, ils ont refait toutes les routes, là, récemment, le centre-ville et tout. Et tout a été bien adapté, avec des trottoirs pas hauts. Et donc, c'est un vrai plaisir de marcher dans les rues. Mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus compliqué, où rien n'est adapté. Je sais pas, Rouen, comment c'est par rapport à ça ?
Je pense que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler d'ailleurs avec le maire de Rouen. Je pense que, bien sûr, il y a toujours des améliorations,
ouais.
Notamment du côté de tout ce qui est privé, notamment je parle des commerçants pour accéder à certains commerces. On pourrait dire quand même les trottoirs, c'est pas toujours vraiment ouf. Hein. Ouais. Parfois, c'est encore un peu accidenté, même l'état de certaines routes. Ou même là, il n'y a pas si longtemps que ça, bah, je suis allé même à Évreux, par exemple. L'état des routes dans le centre-ville est absolument minable.
Ouais.
Quand je dis minable, c'est ni fait ni à faire. Mm-hmm. Il faut refaire, quoi. Après, j'ai envie de te dire que dans le cas spécifiquement, on s'en sort bien. Surtout que les lignes de bus, en fait, ils vont accueillir des bus un peu plus spacieux, qui sont plus écologiques, qui fonctionnent à hydrogène, etc. Qui seront plus spacieux. Parce que c'est vrai que les bus, les vieux bus qui peuvent encore circuler sont assez... sont assez restreints. Et même si c'est adapté, ben, il faut quand même jouer un peu un jeu de...
J'ai pas eu l'occasion de prendre le bus encore.
En tout cas, quand t'es en fauteuil roulant. Mais à Rouen, ça va. Moi, j'ai pas à me plaindre spécifiquement. C'est quand tu vas à Paris, blesse beaucoup plus. Parce que là, effectivement,
il y a le monde aussi. La foule, c'est.
C'est-à-dire que des villes comme Paris et Londres, en fait, faut savoir qu'une partie de l'architecture de, enfin, de qui est dite Bienvenue, c'est-à-dire Fulgence Bienvenue, le créateur du métro parisien. Est en partie classé. Donc, ça veut dire qu'au niveau du regard de la loi, et je peste contre ça régulièrement, au regard de la loi, tu ne peux pas modifier, sous peine, disent la commission d'historiens très âgés qui s'occupe de ça, sous peine de peur de dénaturer un bâtiment, ce que je trouve...
Après, tu as des lignes comme la ligne 14, par exemple, qui est hyper adaptée aux
handicapés. Parce qu'elle a été lancée en 98. Enfin, elle a été inaugurée en 98.
Ouais.
C'est la plus récente des lignes du métro parisien. Et donc, effectivement, elle a été créée avec cet objectif en vue. Mais les lignes de métro jusqu'à la ligne 12, puisque la dernière portion de la ligne 12 a été ouverte à la fin des années 50, mais jusqu'à la fin de la ligne 12, c'est un quasi...
Non, j'ai pas eu l'occasion de prendre le métro beaucoup.
C'est
à
un quasi néant. Il y a... aujourd'hui, il y a une ligne de métro complètement adaptée. C'est la 14. Et le reste, c'est du partiel, ce qui fait qu'en tout, on a 18 stations maintenant sur 309 qui sont complètement adaptées. Voilà, j'ai pas besoin de...
Ouais, donc c'est moyen. Ouais.
C'est... À Paris, on est sur quelque chose de très, très, de très, très moyen, mais parce qu'il y a beaucoup d'architectures du métro parisien qui sont classées aux monuments historiques, et donc on ne peut pas faire grand-chose.
Ouais, donc c'est...
Donc c'est...
J'ai pas envie d'aller à Paris pour le moment, de toute façon.
Et de toute façon, et c'est vrai que même moi, qui a la chance, Dieu merci, de marcher... Bah quand je vais à Paris, quand je dois descendre des marches, alors je mets de rampes, hein, mais je suis quand même assez fatigué, quoi.
Ouais, bah oui. Moi, c'est ça, bah, les escaliers, j'arrive à les monter, les descendre, mais je suis pas rapide, hein, comme toi.
Ah ben non, mais puis tu vois par exemple alors Charles de Gaulle étoile ou Châtelet encore mieux.
Ah ouais. Ah ben Châtelet c'est une horreur.
Voilà, c'est une horreur absolue. Moi je.
J'ai pas pratiqué encore, ça viendra.
Mais moi je rêve. Je lance un message, hein, je rêve d'interviewer Castex, qui est le patron de la RATP, pour lui dire, mais bon, enfin, y a tout à faire, quoi. Hein, dire, on en est là aujourd'hui.
Mmh. Ouais, non, c'est vrai que, donc, pour revenir au sujet de l'accessibilité et de la Normandie, j'ai vu que t'avais interviewé il n'y a pas très longtemps l'office de tourisme de Rouen.
Le dernier épisode, en
fait. Ouais. Donc tu vois, je me suis tenu à jour et la représentante, elle expliquait que le musée d'impressionnisme, c'est ça, le musée des Beaux-Arts était...
Ouais, ils avaient mis des endroits pour... en fait, ils appelaient... Comment ils appelaient... C'est quoi le terme qu'ils ont employé? Ils ont employé un terme spécifique, mais en gros, c'est des espèces de demi-chaises où tu peux... des sortes de repose-pieds, je ne sais plus le terme qu'ils emploient, okay. Mais... je trouve ça assez intéressant pour des personnes, notamment comme nous, qui marchons, mais qui n'avons pas une endurance illimitée. Et on peut se poser sur ces espèces de bancs.
Ah, bah c'est bien ça.
En plein milieu de la visite et même les prendre avec soi, si j'ai bien compris.
D'accord. Ouais, bah justement, j'ai trouvé ça intéressant.
Et c'est un très bel investissement. Mmh. D'ailleurs, puisque je sais qu'ils nous écoutent, au réseau des musées métropolitains, à la RMM, je sais qu'ils nous écoutent, c'est un investissement que je salue. Et qui, comme on le dit, est salutaire. Voilà.
Ouais.
Brique d'ennemi.
Non, non, c'est bien, c'est intéressant. Et puis, après, j'ai pas non plus pratiqué énormément, puisque finalement, je suis pas revenu depuis très longtemps chez mes parents. Mais j'aurai l'occasion cet été de sûrement expérimenter plus de tourisme en Normandie et voir un peu les tenants et les aboutissants, les problématiques. Mais en tout cas, Vernon, je trouve que dans l'ensemble, c'est une ville qui est assez accessible.
Oui, et en plus, même d'un point de vue purement technique, on est sur la ligne Caen, Paris, Le Havre, Paris, enfin Paris-Normandie. Quoi.
Ouais.
Donc, ça reste quand même vachement accessible, même si, bien sûr, puisque je me suis fait incendier par un certain nombre de gens, parce que dans l'intro que tu as écouté hein, de l'épisode précédent, j'ai osé dire que Paris était à 1h25 de Rouen. Mmh. Alors, j'ai reçu une campagne sur les réseaux.
1h25 en quoi ? En train ?
En train, oui. Pour me dire qu'à cause des retards multiples et des désagréments de la SNCF, ce n'est plus le cas depuis longtemps et que c'était dans mes grands rêves. Je n'ai pas volonté de polémiquer avec la SNCF, donc je m'en suis tenu.
Non, mais c'est vrai qu'à ce compte-là, tu peux parler de Vernon et de la distance de Vernon-Paris en train.
Ouais.
Et les gens te diront pour la plupart que quand le train fonctionne ou quand le train est à l'heure. Mais sinon, Vernon n'est pas loin de Paris, ouais, c'est plus ou moins 45 minutes.
Ouais, ouais, bah c'est. Puis il y a le Transilien J qui y va aussi.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est
ouais.
Ça. Eh bien, Benjamin, puisqu'on arrive au terme de cette émission, je voulais te dire un énorme merci. Pour cet échange riche et tu l'imagines très émouvant pour moi. Je te laisse le mot de la fin et j'espère que l'auditeur aura ressenti la passion qu'on a pu avoir dans cet échange et probablement l'émotion commune et l'intérêt qu'on a à faire partager sur ces divers sujets. Je te remercie beaucoup, c'était un énorme plaisir pour moi. Le mot de la fin pour toi.
Et le mot de la fin, donc, c'est merci. Merci à toi déjà, Brian, parce que d'être venu jusqu'ici, d'avoir partagé ce moment avec moi, qui a été vraiment un moment très agréable. J'ai apprécié discuter avec toi, échanger sur cette épreuve de vie qui a été difficile et me rendre compte que toi aussi, tu avais vécu des moments difficiles. Merci à tous les gens qui ont été près de moi à travers cet accident que j'ai vécu, parce que je pense que sans eux, j'aurais pas pu me relever. Je pense notamment à mes amis, je pense au personnel soignant. Je pense aussi à mes parents qui ont été très aimants et très présents du début jusqu'à la fin. Et ça n'a pas de prix parce que se retrouver dans une telle situation sans avoir aucune aide de personne, ça doit être vraiment horrible. Donc merci à tout le monde. Finalement, le mot de la fin, c'est amour. C'est l'amour qui nous sauvera tous. Vive l'amour, vive la vie. Et bonne chance à toi dans tes projets, Brian.